Le 29 octobre 2015, le Cercle du Libre Examen organisait à l'auditoire Paul-Émile Janson une conférence débat autour de la situation des réfugiés du parc Maximilien. L'événement était l'occasion pour les étudiants de la plateforme ULB Student with Refugees, mais aussi pour Élodie Francard, la porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, d'interpeller nos décideurs politiques. Ont répondu à l'invitation du Librex Benoît Ellings, député écolo, Émir Kir, député PS, Sophie Rony, vice-présidente du FDF, Marco Vanès, député PTB et Françoise Kepmans, député MR. L'objectif était de dresser un état des lieux de la situation des réfugiés dans notre pays.
Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je m'appelle Hamza Bedakbir, je suis le président du Cercle du Libre Examen. J'aurai l'honneur de présider les travaux ce soir et je suis migrant. Votre présence dans ce Janson nous conforte dans notre démarche, qui consiste à mettre la crise des réfugiés au centre des questionnements. Et est surtout la preuve que cette question interpelle et mérite d'être traitée à part entière, et non que dans les trésors à coups de buzz journaleux. Vu les tensions autour de ce débat, j'ai jugé très opportun d'être clair sur un point. Nous n'avons aucunement la prétention de traiter la question des migrations dans son entièreté. En d'autres mots, et comme la présentation du débat de ce soir le mentionne très clairement, il s'agira de ne traiter que la question des réfugiés. Cela ne veut en aucun cas dire qu'on mène une campagne d'invisibilisation de la lutte des sans-papiers, lutte aussi honorable que celle des réfugiés. La deuxième interpellation qui nous a été faite concernait, et je cite, « le musellement délibéré des principaux concernés ». Personnellement, quand j'ai lu ça, et après toutes les nuits blanches au centre d'action laïque avec les camarades de l'ULB, je suis pratiquement tombé de ma chaise. Donc, pour les inattentifs et les inattentives d'entre vous, je reprécise, il s'agit ce soir d'un débat entre partis, afin qu'ils nous fassent part des positions respectives de leurs familles politiques respectives sur la thématique traitée ce soir, et non d'une télé-réalité à la TF1. Ne me prenez pas. Loin de moi l'idée que les témoignages n'aient pas leur place dans le débat public, il n'en est juste pas question ce soir. Avant de commencer à vous présenter nos invités de ce soir, cela va de soi que je vous fasse part de l'excellente mobilisation étudiante qui a vu le jour ici à l'ULB, dans l'Alma Mater, à Bruxelles. Une mobilisation où des membres d'Amnesty, du BEA, de l'Association étudiante d'aide au développement, du COMAC, des cercles folkloriques et bien évidemment du Librex, avec l'aide du vice-recteur Jean-Michel Doual et du Centre d'action laïque, se sont rassemblés afin de répondre à la situation de crise annoncée au parc Maximilien. Je ne citerai pas tous, mais s'il vous plaît, pour Chloé, Chris, Astrid, Boris, Louis, Ibrahim, Joao et Hugo, si ce n'est que pour les nuits blanches qu'ils ont passées, je vous demande s'il vous plaît de les applaudir chaleureusement. Sans trop accaparer la parole, et avant de donner la parole à André Arrea, qui nous fait l'honneur de nous contextualiser sociologiquement la question de la migration, André Arrea, qui est sociologue de l'ULB et doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales, je donne la parole au porte-parole de la plateforme ULB Student with Refugees, Astrid et Louis, à vous la parole. Merci beaucoup.
Donc, bonsoir à tous. En effet, nous avons organisé dans un premier temps la relocalisation des réfugiés en famille d'accueil suite au démantèlement du parc Maximilien à la demande de la plateforme citoyenne. Ensuite, nous avons mis en place l'accueil des réfugiés primo-arrivants, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore eu leur rendez-vous à l'Office des étrangers, étaient dans l'attente d'être reçus dans un centre d'asile ou de la Croix-Rouge et à qui un accueil digne a été refusé. C'est donc au Centre d'action laïque de la Plaine, avec le soutien des autorités de l'ULB, que plus de 150 étudiants bénévoles, interprètes, conducteurs se sont mobilisés 24 heures sur 24 afin d'accueillir plus de 250 réfugiés dans un élan de solidarité sans pareil. Il nous semble dès lors important d'ici mentionner que ce sont des citoyens qui ont décidé de s'engager face à l'immobilisme du gouvernement, puisque sinon toutes ces personnes auraient été amenées à dormir dans les rues. Notre action ne s'est pas limitée à vouloir répondre à une situation d'urgence, mais s'est inscrite dans la volonté de poser un geste fort, pour mieux interpeller les pouvoirs publics dans la volonté de faire jouer à l'université son rôle d'acteur dans la société. C'est dans cette optique que la plateforme ULB Students with Refugees est également à la base de la création de Belgian Students with Refugees, dans l'optique de centraliser les activités en faveur des réfugiés de toutes les universités.
Concrètement, nous avons réalisé l'hébergement dans l'urgence, comme un peu une bande d'étudiants naïfs, mais foncièrement révoltés par l'inactivité chronique de notre gouvernement. Révolte évidemment quelque peu attisée chaque jour par les sorties fumeuses dans la presse du secrétaire d'État et de sa médiocre connaissance géopolitique de la situation au Moyen-Orient. Non, monsieur Franken, Bagdad n'est pas safe. À nos politiques maintenant et à leurs représentants si présents, nous désirons poser deux questions. Première question, l'État a-t-il tiré des leçons sur ses erreurs commises ou d'autres démarches citoyennes comme celle de la plateforme ou à moindre échelle celle de l'ULB devront-elles encore colmater les brèches béantes en matière d'accueil des primo-arrivants? Deuxième question, et dans un second temps, puisqu'il convient de penser à l'avenir, les structures actuelles d'accueil des réfugiés, les centres faits d'asile et autres, sont-elles réellement suffisantes, premièrement, à l'intégration efficace des réfugiés et deuxièmement, à l'accueil digne de ces potentiels nouveaux citoyens? Merci.
Comme prévu, je donne la parole à André Aréa.
Merci beaucoup. Donc ma tâche, c'est surtout de donner une idée de contexte par rapport au débat. Et en fait, je vais aller assez vite, je vais donner quatre idées. La première, c'est la question de l'ampleur. Jusqu'à présent, beaucoup, on l'a recité d'ailleurs maintenant, parlent de vagues humaines, de marées humaines, etc. Et je pense qu'il est important quand même de voir aussi l'usage qu'on a fait aujourd'hui pour exciter les peurs, parce que quand on regarde les chiffres de manière très précise, on n'est pas non plus dans une situation qui est beaucoup plus importante que celle qu'on a connue en 1999-2000, quand il y avait l'exode des Kosovars. Je ne veux pas dire par là que ce qui est en train de se passer pour l'instant n'est pas important, je veux juste dire par là qu'il y a un enjeu aussi sur comment est-ce qu'on mobilise certaines images au fin de faire peur sur la question de l'invasion. Deuxième point, est-ce que la Belgique était prête à la situation telle qu'elle est apparue? Alors ça, il est évident que la Belgique, en particulier déjà le précédent gouvernement et le nouveau gouvernement, la première chose qu'ils ont fait, c'est fermer des places d'accueil. En se disant deux choses. Un, nous sommes à l'abri, ce qui était tout à fait un peu paradoxal, puisqu'il y avait une augmentation des demandeurs d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas, notamment en provenance de l'Irak et de la Syrie, et que, pour une raison encore tout à fait mystérieuse, ils n'arrivaient pas en Belgique. Mais il est un fait que cette situation ne pouvait pas perdurer. Donc, d'une certaine manière, on n'a pas anticipé la situation qui est advenue. Là aussi, concernant les chiffres, il ne faut pas oublier, le maximum qu'on ait atteint en termes de demandeurs d'asile, c'est en 2000, c'était 40 000. Pour l'instant, on est à 27 000. Troisième point. Par rapport à la question du gouvernement, il me semble qu'il ne faut pas perdre de vue que si des citoyens ont dû intervenir au parc nasrimilien, c'est fondamentalement parce que l'Office des étrangers a décidé de ne pas accepter plus de 250 dossiers par jour. Or, il était tout à fait possible, même avec le personnel qui était disponible à ce moment-là, d'augmenter le nombre de dossiers qu'on pouvait accepter, simplement en ayant une procédure plus courte que celle qui est habituellement utilisée. Donc, d'une certaine manière, le camp et la présence de toutes ces personnes est aussi le fruit d'une décision politique ou d'une volonté politique, ou d'une absence de volonté politique, de toute façon une non-reconnaissance de la situation telle qu'elle était là. Je pense qu'elle participe surtout au sein du gouvernement, et bien sûr, on le sait très bien, au sein d'un parti au sein du gouvernement, qui a considéré et a mis dans son programme politique le fait qu'il fallait diminuer l'immigration, qu'il fallait même changer la législation relative aux demandeurs d'asile, ce qui est quand même un comble d'une certaine manière. Dernier point, sur lequel je voudrais aussi insister, combien coûte cette situation? On sait très bien par différentes études qui ont été réalisées, notamment celle de l'OCDE, celle qui est sortie récemment de l'UCL, que, bien sûr, il y a un coût au départ, et ce coût au départ, c'est celui de l'accueil, celui de la réception maintenant, et dans la phase après, quand il y aura, pour ceux qui auront obtenu le statut de réfugié, la situation de l'intégration, ces personnes pourront avoir accès, notamment, aux revenus d'intégration sociale. Et donc, pour les CPS, ceci constitue effectivement un coût, comme ça l'est d'ailleurs déjà par le passé, depuis toujours, d'une certaine manière. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que cette situation ne reste pas de manière permanente. Alors, une autre étude que j'ai réalisée avec un collègue de la KU Leuven, qui est un livre qui est sorti cette année, démontre une chose qui est très importante, sur laquelle je voudrais, et je terminerai là-dessus. C'est, on a suivi l'ensemble des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. C'est pas un échantillon, c'est toutes les personnes. Entre 2003-2006, et on a suivi pendant 4 ans, trimestre par trimestre, ce qu'ils sont devenus. Au début de la période, 19% sont sur le marché du travail. Après 4 ans, ils sont 55% sur le marché du travail. Si on prend les données de l'OCDE, on démontre d'une certaine manière qu'après un certain temps, où il y a un coût, on ne va pas dire il y a un coût, à partir d'un certain moment, il y a un retour sur le capital d'une certaine manière, c'est-à-dire que, travaillant, ils participent au développement de l'économie belge, ils participent aussi à l'accroissement le budget public, et donc, d'une certaine manière, ne constituent pas un coût, mais constituent un investissement. Et ce, c'est d'autant plus vrai qu'on pourrait prendre tout simplement la partie la plus cynique de cela. À partir du moment où les employeurs se félicitent de la présence de ces demandeurs d'asile, c'est que quelque part, il y a aussi un intérêt à ce qu'ils soient présents. Voilà, je vous remercie.
Sans trop tarder, je donne la parole à Élodie Francard, porte-parole de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés.
Je ne vais pas m'éterniser sur le fonctionnement de la plateforme, étant donné qu'aujourd'hui on a des responsables politiques. C'est l'occasion de m'adresser directement à eux et d'expliquer un peu la manière dont ça s'est fait avec les responsables politiques. Dans un premier temps, la plateforme citoyenne n'a pas été reconnue comme un acteur politique valable, disons, par les autorités fédérales. Lors des réunions politiques dans lesquelles on s'est retrouvés, de nouveau, c'était la question de la décrédibilisation du mouvement. Ça veut dire que, à part nous être fait traiter d'extrême gauchiste, je ne sais même pas ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est une insulte de se voir comme extrême gauchiste, peu importe. Puis on nous a accusé d'être des menteurs sur les chiffres et des choses comme ça. Donc c'est vraiment la question d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a une non-volonté politique d'entendre en fait une réalité de terrain portée par des citoyens qui effectivement avaient une connaissance de la question. Aujourd'hui, je m'adresse surtout au gouvernement fédéral, aux représentants du gouvernement fédéral. Voilà. Plus pratiquement parlant, on est sorti de l'urgence. Sauf que, on a appris il y a quelques jours dans les médias qu'on passerait dorénavant de 250 demandes par jour à 150. On se retrouve à nouveau avec 150, avec des personnes ayant des jours d'attente pour pouvoir être enregistrées. La question, qu'est-ce qu'a retenu le politique de ce qui s'est passé pendant ces deux derniers mois ? On va probablement, si le gouvernement continue sur ses mesures de diminution des demandes d'asile, remonter un campement. Alors, on est prêt à le faire, je pense, et vu le nombre de soutiens qu'on a aujourd'hui pour les réfugiés, eh bien, je pense que s'il faudra recommencer dans la gestion d'un campement de réfugiés, de tels soutiens, eh bien, effectivement, ça se fera. Je pense que ce n'est souhaitable pour personne, parce que ce sont des conditions de vie relativement difficiles. Donc, de nouveau, enfin, je reviens sur cette question centrale, en fait, quelles sont les leçons tirées de tout ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que les politiciens vont faire dans un futur relativement proche, mais dans un futur lointain aussi ? On est au début d'une crise de réfugiés. Les flux sont au début, mais on parle de plusieurs années, vu les conflits un peu partout au Moyen-Orient et bien plus large aussi. Et donc, c'est vraiment ces questions qui nous restent en tant que citoyens, finalement. Dernière chose, sur le soutien, on nous a souvent à moitié reproché de faire une distinction entre bons demandeurs d'asile, enfin, bons réfugiés, mauvais réfugiés, sans papiers, etc. Je pense qu'effectivement, il faut arriver aujourd'hui à une réflexion plus large qu'il faut amener au niveau politique. Comment est-ce qu'on traite la question migratoire aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on sort de cette politique de non-migration et on rentre dans une politique d'immigration ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des questions auxquelles on va devoir faire face sur le long terme. Et je pense que les citoyens, aujourd'hui, seront prêts à se mobiliser pour interpeller les politiques. Voilà.
Voilà. Maintenant, nous passons à la table avec nos chers amis politiques. Sans trop tarder non plus, je donne la parole à Monsieur Emir Kir.
Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, merci évidemment de cette invitation du cercle du libre examen. Je voudrais, pour ma part, aborder en préambule la question de l'approche globale de cette question. Pour le moment, en fait, on s'attarde sur la tache de sang qui arrive chez nous, mais on ne va pas voir où est l'hémorragie. Et je pense que la question des pays d'origine doit être débattue, et y compris avec des gens progressistes, y compris avec des gens qui ont parfois du mal à parler d'intervention dans les pays d'origine. Si nous ne nous occupons pas de la Syrie autrement, de l'Irak autrement, des pays en Afrique autrement, il sera difficile d'arrêter ces déplacements de population. Il est important ici de rappeler que personne ne quitte son pays par envie. Et là, c'est vraiment insupportable d'entendre les discours, notamment de la NVA et d'autres, qui présentent ces réfugiés comme étant des abuseurs de droits, des profiteurs de droits. Ces gens-là quittent un pays qui est en guerre, ils quittent la mort, ils quittent les assassinats. Et ici, je crois que tant qu'on n'aura pas une approche globale par rapport au pays d'origine, pour essayer de reprendre la main, mais comment ? Évidemment avec un mandat du Conseil de sécurité, évidemment avec un accord avec les grandes puissances. Et après, organiser la transition. Je voudrais pour ma part aussi m'attarder quelques instants sur ce qui est à mon avis la responsabilité aujourd'hui du gouvernement fédéral. On l'a souligné, ne pas inscrire, ne pas traiter plus de 250 demandes pendant des semaines, et aujourd'hui diminuer à 150, c'est un signal clair qu'on envoie. Deuxièmement, réduire les budgets de faits d'asile. C'est ce qui a été décidé en 2014, c'est ce qui a été poursuivi en 2015. Je signale ici qu'avec la Croix-Rouge, avec toute une série d'ONG, des partis comme le mien, comme d'autres, ont réagi en 2014. Avec certains collègues au Parlement comme Benoît Hélings, nous avons demandé à M. Franken de ne pas aller dans cette direction puisque tous les signaux au niveau humanitaire nous disaient qu'on allait avoir un afflux en 2015. Donc ce qui se passe en 2015 aurait pu être anticipé. Et au niveau de la gestion aujourd'hui de la crise en elle-même, je crois qu'il faut bien se rendre compte du fait qu'il y a une volonté aujourd'hui dans le nord du pays, à partir de la NVA, mais soutenue par d'autres partis, on le voit, de laisser finalement ces réfugiés dans la rue. Et heureusement qu'il y a eu cette réaction de la plateforme citoyenne, qui a apporté une aide et qui a permis de créer un rapport de force au Parti socialiste. Ce que nous réclamons du gouvernement, c'est évidemment l'ouverture de places en urgence. Mais pour nous, le principal, c'est de faire en sorte que toutes les communes en Belgique interviennent dans l'accueil des réfugiés. Il doit y avoir un plan de répartition équilibré dans toutes les communes de la Belgique. Ce n'est pas une question d'opportunité politique, c'est une question de dignité. La dignité des Européens, la dignité des Belges face au désarroi des Africains et des gens qui vivent dans le Moyen-Orient. Nous avons une obligation internationale. Nous nous sommes engagés pour ça. Nous avons nous-mêmes connu cette situation pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une obligation pour nous que d'agir et de réagir et d'apporter des solutions. Et donc, au niveau du gouvernement, ce que nous demandons, c'est qu'on mette en œuvre ce plan de répartition équitable au niveau de toutes les communes. Franken, devant la pression populaire, a décidé d'ouvrir 17 000 nouvelles places. Et je rejoins ce qui a été dit ici. Il n'y a pas de problème pour gérer aujourd'hui les réfugiés en Belgique. Hein. Il suffit de se mettre au travail. Hein. On en a accueilli 40 000 avec Mme Arena en 2000. Aujourd'hui, on a au total une vingtaine de milliers hein, de réfugiés qui ont été accueillis. Il fallait évidemment mettre en branle les dispositifs qui existaient. Ils ont tardé à le faire. Ils ont commencé à le faire au mois d'août et au mois de septembre. Et au moment où je vous parle, sur les 17 000 places annoncées, seules 2 200 sont activées. Le reste, il faudra attendre des mois. Il faudra attendre encore plusieurs mois. Sur la question de la légitimité d'Élodie, moi je crois qu'il y a des acteurs qui sont reconnus par l'État, qui sont les ONG connues, qui sont faits d'asile. Et on a bien vu qu'il n'y a pas une réaction rapide de leur part. Et donc votre réaction, c'est celle de la population belge. C'est celle de ceux qui avaient la main sur le cœur et qui voulaient agir. Et je pense que vous ne devez pas faiblir. Vous devez continuer parce que vous avez été un moyen de pression supplémentaire dans le rapport de force qui existe actuellement. Président, je m'arrête ici peut-être pour donner la parole à mes collègues.
Merci. Voilà, toujours dans la continuité, Sophie Reuny.
J'ai bien aimé la façon dont la première question a été posée, à savoir l'État a-t-il tiré les leçons de ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, parce que malheureusement on constate, et ça vaut pour la politique de l'asile comme pour toute une série d'autres domaines, que malheureusement il faut attendre des drames sociaux comme humains pour pouvoir agir. C'est toujours une politique de réaction, alors que, en l'occurrence dans ce cas-ci, il aurait mieux fait de se trouver face à une politique d'anticipation. D'autant plus que ici, comme l'a dit M. Kier, il était possible d'anticiper, du moins dans une moindre mesure, le flux de réfugiés face auquel on s'est retrouvé. Je rejoins aussi M. Kier lorsqu'il dit que c'est bien beau, voilà, de mettre en place des solutions, des mesures en aval. Toujours est-il qu'il se passe des choses en amont dont il faut prendre conscience et qu'il faut attaquer. Et notamment, effectivement, la situation en Syrie, puisque 20% des demandeurs d'asile qu'on accueille aujourd'hui ici sont des Syriens qui fuient non seulement l'État islamique, mais également le gouvernement syrien de Bachar el-Assad. Et par rapport à cette situation-là, la position du FDF est très claire également. C'est qu'il faut intervenir pour stopper cette guerre, pour stopper cette hémorragie humanitaire, mais à condition, à la double condition, de le faire dans le respect du droit international humanitaire, mais également de le faire dans le cadre d'une coalition internationale qui est soutenue par une résolution adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors vous allez me dire, ben oui, une résolution au Conseil de sécurité, c'est bien beau, mais la situation est telle que la Chine et la Russie font blocage. Donc, par rapport à ça, il y a toujours des solutions. On peut toujours faire agir la diplomatie de manière à, malgré tout, obtenir un mandat au Conseil de sécurité, moyennant une série de conditions. Par rapport à ce qui s'est passé au parc Maximilien, effectivement, la gestion du fédéral par rapport à ce dossier a été catastrophique. La limitation des demandes à l'Office des étrangers à 250, alors que le secteur associatif demandait à ce qu'on fasse correspondre le nombre de demandes au nombre de personnes qui arrivaient. Le fait qu'on ait fermé en décembre 2014 les places d'accueil. Je tiens tout de même à rappeler que sous le gouvernement précédent, le gouvernement Di Rupo, on a également fermé plus de 5000 places. Ces décisions sont d'autant plus choquantes qu'elles ont été prises par un gouvernement qui s'engageait dans son accord de gouvernement à, je cite, « améliorer sans cesse l'efficacité et la qualité de la procédure et de l'organisation de l'asile ». Et ce, dans un contexte où les demandes d'asile avaient recommencé à augmenter, certes que de 8%, mais on observait quoi ? C'est que la moyenne européenne était de 44%, donc forcément il ne fallait pas espérer que cette demande, que cette augmentation ne se limite qu'à ces pays-là. Donc oui, il était possible d'anticiper ce qui s'est passé, et notamment au niveau du gouvernement bruxellois, c'est ce qu'on a fait, notamment en débloquant une subvention de 120 000 euros pour aider la plateforme qui était présente sur le parc Maximilien, et notamment pour les aider dans les installations sanitaires et pour permettre la bonne continuation des consultations médicales. Voilà. Je voulais aussi réagir par rapport à une chose qui m'avait assez interpellée par Frenkel lorsqu'il disait voilà, la situation est réglée maintenant par rapport à l'Office des étrangers. D'accord, mais comme l'a très bien rappelé Elodie, l'approche de l'hiver fait que forcément le flux de demandeurs d'asile ralentit. Il y a aussi le fait que beaucoup de demandeurs d'asile, face au fait que leur demande tarde à être traitée, eh bien, ils abandonnent le fait de voir aboutir leur demande en Belgique, et par conséquent, ils se dirigent vers d'autres pays d'accueil. Et puis aussi, il y a le fait que le CGRA ait gelé les demandes d'asile de personnes qui venaient d'Irak, en particulier de la région de Bagdad, et donc dire après, ben voilà, j'ai résorbé l'arriéré, oui, comment et au prix de quelles mesures. Par rapport à l'obligation d'accueil, Je tiens à préciser que contrairement à ce que le gouvernement a l'air de prétendre, il ne s'agit pas d'une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Et à ce propos, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un très intéressant arrêt le 7 juillet 2015, donc de cette année, et qui concernait une famille de réfugiés qui n'avait pas pu bénéficier des soins élémentaires, d'un logement, etc. Et par conséquent, la Cour a considéré que la situation dans laquelle se trouvait cette famille était un traitement inhumain et dégradant, et par conséquent, la Belgique manquait à son obligation d'accueil, quand bien même elle se trouvait dans une situation de crise de l'accueil. C'était en 2010, mais cette situation de crise de l'accueil, on la connaît de nouveau aujourd'hui, ce qui fait que le raisonnement de la Cour tient très bien par rapport à la situation qu'on rencontre aujourd'hui. En région bruxelloise, je tiens à évoquer ce niveau-là, étant donné que le FDF fait partie du gouvernement à ce niveau de pouvoir, il y a plusieurs solutions qui se dégagent. On pourrait, par exemple, appliquer le droit de gestion public pour les logements inoccupés, qui est prévu par le Code logement du bruxellois, et qui a notamment été évoqué par le bourgmestre de la commune de Dergem. On pourrait également, et c'est ce qui se fait beaucoup forcément, c'est solliciter les logements sociaux de nos communes, tout en sachant, et c'est Fedasil qui l'a recommandé à ce sujet, c'est d'opérer un équilibre entre l'unicité des lieux pour pouvoir assurer une bonne prise en charge, un bon accompagnement des demandeurs d'asile qui se trouveraient dans ces logements, mais également un certain dispersement, ça paraît contradictoire, mais je pense que c'est important d'opérer cet équilibre, un dispersement de ces lieux pour qu'il n'y ait pas un effet ghetto de ces personnes, pour qu'on puisse dire « Ah, elles se trouvent là, ok, on les voit », un peu l'effet badge en quelque sorte, parce qu'il faut vraiment maximiser les chances d'intégration et donc opérer un certain dispersement. Et puis, effectivement, et là je rejoins complètement M. Kier, c'est le plan de répartition obligatoire qui doit avoir lieu au niveau régional bruxellois, dans un premier temps, mais sur le long terme, au niveau national. M. Franken a déclaré hier, je voulais terminer là-dessus, en commission relations extérieures, que ce plan de répartition obligatoire, il allait nous finaliser pour décembre. On verra, on ne manquera pas de le réinterroger à ce propos. Merci.
Merci, Zavik. Pour Écolo, Benoît Elims.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais répondre aux questions d'Astrid et Louis. Vos deux questions, c'est l'État a-t-il tiré les leçons ? Je vous réponds non. Et les structures actuelles sont différentes. Sont-elles suffisantes ? Et je vous réponds aussi non. Mais je vais entrer dans le détail et vous expliquer. Le gouvernement fédéral, face à la crise de l'asile, a été confronté à une double contrainte. La contrainte idéologique, j'y reviendrai. On ne veut pas des étrangers. Mais aussi la contrainte logistique, puisque dès le gouvernement Di Rupo, dès Maggy de Bloch, et ensuite avec lui le gouvernement Michel et Théo Franken, ils avaient face à eux un secteur de l'asile sans place d'accueil, on les avait fermés, et sans personnel formé ou engagé qui pouvait accueillir ces réfugiés, premièrement. Deuxièmement, il y a le quota de 250. Moi, je me souviens, 250 donc candidats réfugiés accueillis par jour à l'Office des étrangers. Évidemment, c'est un quota idéologique. Alors, on a eu une discussion au Parlement. Franken nous dit « c'est 250 et pas plus ». On interroge Charles Michel et on lui dit « mais enfin, vous pouvez accueillir plus de 250 personnes. Si vous en accueillez 500, vous réduisez en deux jours le parc maximilien à néant ». Et Charles Michel me répond « mais enfin, la limite est logistique ». On n'est pas en moyen d'accueillir plus de réfugiés. Ce qui est faux, parce que deux jours plus tard, Franken dit dans De Morgen, vous savez, pour moi, c'est juste la limite de 250, c'est pour éviter l'appel d'air. L'appel d'air, c'est ce qu'il a dit. Donc la limite de 250, d'alors, la limite des 150 aujourd'hui, elle est idéologique, elle n'est pas logistique. Il y a suffisamment de fonctionnaires pour accueillir ces candidats réfugiés dignement. Qui est le vrai responsable de la crise de l'accueil, au fond ? Bon, le gouvernement Michel, je vous expliquais. Mais évidemment que c'est Daesh, en Irak, en Syrie. Évidemment que c'est Bachar el-Assad, en Syrie. Vous savez, quand vous allez sur le site du SPF des Affaires étrangères, on constate qu'on déconseille aux Belges qui souhaitent se rendre en Irak d'aller dans la zone, en particulier aux alentours de Bagdad, parce qu'on pourrait estimer que là, le danger pourrait être très très grand pour les personnes qui s'y rendraient. Donc il y a deux versions, deux visions de l'Irak et de Bagdad en fonction de la langue que vous parlez. Si vous parlez français et néerlandais, que vous êtes belge, ne vous y rendez pas. Mais si vous parlez arabe et anglais, c'est-à-dire la langue dans laquelle la lettre de Théo Franken adressée aux candidats réfugiés irakiens présents dans les centres d'asile, l'aide qu'il a distribuée, eh bien là, on vous dit, c'est très bien, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, évidemment qu'on ne va pas régler d'un coup de cuillère à peau la situation en Syrie. C'est extrêmement compliqué, ça a déjà été dit. Eh bien, en attendant, on n'a qu'à faire ce qu'on fait mieux, accueillir ces personnes qui fuient la violence. C'est ça qu'on peut faire. Alors, par rapport à la politique d'asile aujourd'hui menée par le gouvernement, on a parlé du retour en Irak, hein, j'y reviendrai, il y a aussi la question des pays, de la liste des pays sûrs. Chaque pays de l'Union européenne aujourd'hui a une liste de pays sûrs. Ça ne veut pas dire que si vous venez de ce pays, vous ne recevrez pas l'asile. Ce n'est pas ça que ça veut dire, il faut être clair. Mais il y a une présomption positive, ou plutôt négative par rapport à votre demande d'asile si vous provenez d'un pays qui se trouve sur cette liste de pays sûrs. Aujourd'hui, la Belgique a sur sa liste des pays sûrs le Kosovo. L'Union européenne prévoit dans sa future liste des pays sûrs la Turquie. C'est le pays par lequel non seulement nos combattants belges, les 450 à 600 personnes qui se rendent en Syrie pour combattre Bachar al-Assad, mais en prenant le costume de Daesh, passe. Mais c'est aussi le pays où tous les réfugiés, quasiment tous les réfugiés qui viennent de Syrie, passent aussi. Et il est question que l'Union européenne place la Turquie sur sa liste des pays sûrs, où donc il y aura une présomption négative pour une demande d'asile. Et donc le demandeur d'asile devra batailler pour prouver qu'il est réellement en danger. C'est un vrai problème et il faut le combattre. Merci.
Et pour le Parti travailliste de Belgique, Marco Vanez.
Merci. Mais tout d'abord, on m'a demandé d'abord d'aborder la question des causes qui ont déclenché la crise des réfugiés. Et ça me rappelle, lorsque j'ai commencé, dès le début de mon mandat de parlementaire il y a un an, je vous situe le cadre, Raoul Edebo, mon camarade et moi-même, on arrive à la Chambre, c'est la première fois que le PTB est représenté dans un parlement, et on est soumis directement à une question grave, qui est celle de la guerre. Est-ce que la Belgique doit faire la guerre? Et j'étais assez surpris de constater qu'en fait, Raoul Edebo et moi-même, on était les deux seuls à voter contre la guerre, contre l'envoi de F-16 en Irak. Pourquoi? Mais parce qu'on se rend compte que quels que soient les motifs d'intervention, en fait, cette nouvelle intervention suivait une masse d'interventions qui avait eu lieu dans la région les années précédentes, et que chaque fois qu'il y a une intervention, chaque fois, la situation ne s'améliore pas, elle s'empire. Et à la commission relations extérieures ou défense, je ne sais plus, ou les deux, où on discutait de ça, il y avait un député qui était particulièrement belliciste, on va dire que c'est celui qui défendait le plus l'entrée en guerre, et peu après, il est devenu secrétaire d'État, et c'est Théo Franken. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, c'était ceux qui sont les plus bellicistes, qui sont le plus pour faire une intervention, qui aujourd'hui sont les plus réticents, et encore je pense que le mot est faible, par rapport aux réfugiés, alors qu'il y a un lien direct évidemment entre la situation de guerre qu'il y a et la crise des réfugiés. Et en fait, bon, on se rend compte que, je parle de l'Irak, mais je pourrais parler de la Syrie, où on a un Guy Verhofstadt hein, de l'OpenVLD qui disait à l'époque, je cite, « Selon moi, une des choses qui doit être faite, c'est aider matériellement et techniquement toutes les organisations en Syrie qui luttent contre le régime syrien et il évoquait les moyens de communication et peut-être les armes. Donc, État islamique était ceux qu'il fallait aider. Et ce qui est assez incroyable, c'est le contraste entre cette politique vis-à-vis de la Syrie et la politique belge d'amitié. On a le roi qui se rend en visite en Arabie Saoudite, un régime ultra-religieux dont on connaît les pratiques en matière de criminalité d'État, de décapitation, et alors qu'on sait que c'est l'Arabie Saoudite est l'un des principaux fournisseurs de munitions et d'armes à tous les mouvements terroristes qui sont actifs dans la région. Alors, la situation en Belgique. On a posé la question tantôt, est-ce que l'État a tiré les leçons de la crise des réfugiés? Mais j'ai l'impression que la question n'est pas très bien posée. Moi, je dirais plutôt que qu'on a un chaos organisé de la part du gouvernement. Parce que la NVA et malheureusement l'ensemble du gouvernement a une politique de division. Et heureusement, par rapport au parc Maximilien, heureusement qu'il y a eu un mouvement citoyen qui a quelque part comblé les lacunes de ce gouvernement et qui est intervenu. Alors, Franken s'est dit étonné, surpris de l'arrivée de tant de réfugiés. Évidemment, il y a une bonne dose d'hypocrisie dans cette surprise, puisque il disait lui-même, quand il présentait son programme, sa note d'orientation politique, je le cite, il disait « le défi », donc avant la crise des réfugiés, il disait « le défi du XXIe siècle, c'est la migration, le nombre de conflits à travers le monde ne cesse d'augmenter, ceci entraîne un afflux de réfugiés ». Donc c'est lui-même qui disait que c'était le défi du XXIe siècle, mais qu'est-ce qu'il s'est empressé de faire? C'est effectivement de réduire le nombre de places d'accueil et le nombre de personnel qui travaille à l'accueil. Il est vrai, et d'autres l'ont déjà souligné, qu'il n'avait pas la primeur dans le domaine, puisque le gouvernement précédent, avec Maggie de Blocq, avait fait exactement la même chose, et d'ailleurs le nombre de places d'accueil, la diminution du nombre de places d'accueil est même supérieure dans l'ancien gouvernement qu'avec Franken. Ce qui est assez incroyable, c'est, voilà, Franken, ok, je pense que son portrait est fait, mais malheureusement, j'ai dit, dans le gouvernement, il y a des gens qui mènent la même politique et qui, quelque part, véhiculent la même idéologie. Je vous cite le ministre des Affaires étrangères, qui est quand même particulièrement concerné par cette question, Didier Reynders, et qui affirmait dans Le Soir, je cite, « La vision de Theo Franken sur les réfugiés n'est pas très éloignée de ce que pensent les libéraux. On doit accueillir ceux qui en ont besoin, mais c'est comme chez soi. Si vous accueillez quelqu'un à la maison et qu'il frappe vos enfants, viole votre femme et vole les couverts, vous le mettez à la porte. Il y a une limite à l'accueil. » Vous avez bien entendu ce qu'insinue un Didier Reynders. C'est que si on accueille des réfugiés qui en fait ont comme seul défaut de fuir la guerre, eh bien directement ils sont suspectés de frapper les enfants, de violer des femmes. Alors ce qui est assez grave, c'est cette avalanche de mesures aussi que prend le gouvernement et Franken en particulier. Une avalanche de mesures qui finalement ont comme seul but de criminaliser les réfugiés. Donc, par exemple, cette déclaration qu'ils doivent signer, comme quoi ils respectent les valeurs occidentales ou les valeurs européennes, je sais pas quel terme exact, comme si, a priori, c'était des sauvages qui n'ont aucune valeur. C'est vrai que moi, parfois, j'ai des questions, justement, sur ces valeurs que véhiculent les partis de la majorité. Et alors, encore plus grave, c'est évidemment ces badges, hein, ces badges que veut imposer le gouvernement, dont on ne voit pas l'utilité parce que les réfugiés ont déjà des pièces d'identité, l'équivalent de pièces d'identité qui permet de les identifier. Donc s'il faut un badge, c'est vraiment une manière de stigmatiser ces gens et malheureusement on ne peut s'empêcher de penser à une époque effectivement où on devait porter des étoiles sur ses vêtements. Impossible de ne pas faire ce lien, même si c'est donc. Alors, et un dernier élément, évidemment, c'est aussi toute cette politique qui consiste à présenter les réfugiés comme une menace à la fois pour notre sécurité, je l'ai dit, pour notre culture, pour nos valeurs, et puis aussi pour la sécurité sociale. Et quelque part, là, il y a une sorte de diversion, hein, on pourrait parler d'une arme de diversion massive pour détourner l'attention de la politique antisociale menée par ce gouvernement. Voilà, et donc je termine par, rapidement, je pense, parce que...
Une minute.
En une minute, je dois présenter, au BTB, qu'est-ce qu'on propose par rapport à cette situation. Eh bien, au niveau de la Belgique, en tout cas, il y a un principe simple, c'est de respecter les conventions que la Belgique a signées. Et, par ailleurs, il faut créer des places d'accueil en nombre suffisant. Et donc, ce qu'on défend au BTB, c'est une réelle solidarité envers ces réfugiés. Et, on a dit, je pense... La Belgique en accueille très peu par rapport à ce que les pays voisins des zones concernées accueillent, c'est sans commune mesure. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est effectivement une répartition au niveau de l'Europe en fonction de la population des différents pays et du poids économique relatif des différents pays. Et dans ce cadre-là, je pense que le système de Berlin doit être abrogé, hein, puisque c'est ce système qui fait que le pays où on arrive est compétent, évidemment, comment répartir les réfugiés de manière équitable si on maintient ce système de Dublin. Et alors, mais je vais en terminer parce que je sens que je suis un peu trop long, je pense qu'il faut remettre en question toute la politique de Frontex. Hein. Frontex, c'est une organisation européenne, officielle, mais une organisation quasi-militaire qui est épinglée par des organisations de droits de l'homme et qui a une politique qui n'est pas d'aider les réfugiés, mais au contraire de les réprimer. Voilà, j'en ai terminé.
Merci.
Et pour le MR et la faible représentation du gouvernement, parce que l'ANVA a refusé de venir, Madame Françoise Kepman.
Voilà, bonsoir. Alors j'ai entendu beaucoup de choses et je pourrais dire que certains points de vue se rapprochent de ceux que je veux défendre ce soir et d'autres me paraissent particulièrement à côté de la plaque. En tout cas, infondé par rapport à la politique que veut mener le gouvernement fédéral sur la question des réfugiés. Alors, évidemment, que la crise que nous traversons aujourd'hui en Belgique, c'est une crise qui est due à des événements extérieurs, puisque le printemps arabe qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme s'est transformé, je dirais, en hiver de glace. Et la situation internationale que nous connaissons aujourd'hui, notamment en Syrie et en Irak, a fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des centaines de milliers de réfugiés, de candidats réfugiés qui se sont orientés vers l'Europe. Et évidemment, par rapport à cette crise internationale, cette crise humanitaire et cette crise de guerre, il faudra trouver des réponses. Et aujourd'hui, la préoccupation première que nous avons en Belgique, c'est comment organiser l'accueil des candidats réfugiés. Alors, c'est vrai que la plateforme a initié un mouvement de solidarité très important et on peut reconnaître qu'il y a eu de l'imprévision de la part du gouvernement face à cette crise humanitaire majeure parce que, eh bien, ça faisait quand même... je pense qu'on ne pouvait pas prévoir qu'elle aurait une telle ampleur et que nous n'étions pas préparés et que depuis plusieurs années, les dispositifs d'accueil avaient été diminués au niveau de la Belgique sous le gouvernement précédent, sous ce gouvernement ici au début aussi, et que le gouvernement fédéral a eu des difficultés dans un premier temps à faire face. Et que c'est la plateforme citoyenne qui a permis de donner un coup d'accélérateur et de faire en sorte que le politique prenne ses responsabilités et les prenne rapidement. Mais ce type d'imprévision, on l'a connu également par le passé, par rapport également à d'autres guerres qui ont eu un impact sur la Belgique. Et Il y a eu aussi des difficultés à réagir, notamment du temps où messieurs Watley et Corard étaient à la manœuvre pour l'accueil des réfugiés. Enfin, ça n'excuse pas le fait que le gouvernement actuel ait eu des difficultés à pouvoir organiser de manière correcte cet accueil. Je voudrais quand même préciser, parce que quand on parle du gouvernement actuel comme un gouvernement qui n'aime pas l'étranger, comme un gouvernement qui ne veut pas accueillir de candidats réfugiés, je trouve que ce sont des paroles particulièrement choquantes, et que le chef du gouvernement, à savoir Charles Michel, a été très clair au début septembre. Il a pris la parole pour dire qu'il n'accepterait aucun propos raciste, aucune attitude xénophobe de la part de qui que ce soit, de la part d'un quelconque responsable politique ou de la part d'une partie de la population à l'égard de la crise des réfugiés. Il l'a dit très clairement, c'était début septembre. Il faut être quand même très clair par rapport à ça, et que le gouvernement s'est toujours inscrit dans le respect des accords de Schengen, dans le respect de la Convention de Genève, et qu'à aucun moment le gouvernement n'a remis en cause ces conventions. Et en ce qui concerne l'accueil tel qu'il a été organisé par l'Office des étrangers, c'est vrai qu'il y a eu du tâtonnement au départ, mais que la situation quand même a été reprise en main, je dirais, assez rapidement, puisqu'on a engagé du personnel pour pouvoir faire en sorte que les dossiers des candidats réfugiés puissent être examinés plus rapidement. Il y a le WTC qui a été ouvert et qui a accueilli plus de personnes qui pouvaient s'inscrire quotidiennement et qui pouvaient y séjourner, et l'accueil se faisait 24 heures sur 24. Donc il y a quand même des mesures importantes qui ont été prises par le gouvernement. Il y a des centres d'accueil qui ont été réouverts. Il y a de nouveaux centres d'accueil qui vont être créés, et il y a une demande de la part du gouvernement d'assurer une répartition des candidats réfugiés sur le territoire de la Belgique. À cet égard, je pense que cette répartition, elle doit être bien réfléchie, dans le sens où, j'entends, on va répartir les candidats réfugiés en fonction du chiffre de population des entités. Je crois qu'il y a d'autres réalités à prendre en considération. Il y a aussi le revenu, la situation socio-économique des entités. Il y a aussi les politiques d'accueil qui existent parfois depuis de nombreuses années par certaines localités qui ont une expertise une expérience, en tout cas, par rapport à l'accueil des personnes d'origine étrangère. Et donc, cette répartition, elle devra être faite, je pense, de façon, on ne pourra pas l'improviser, elle devra être faite de façon intelligente, réfléchie. Ça me semble une des conditions de succès pour pouvoir faire en sorte que les candidats réfugiés puissent trouver leur place dans la société d'accueil qu'est la Belgique. Et à cet égard, on a parlé également, je pense qu'on parle beaucoup du gouvernement fédéral, mais que les régions et les communautés ont également des responsabilités par rapport à l'accueil des candidats réfugiés. Alors on a parlé de la région qui s'est adressée aux communes en leur disant, voilà, on souhaiterait que vous ouvriez des places. Enfin, moi je connais mieux la situation de la région bruxelloise. On souhaite que vous ouvriez des places dans les communes pour accueillir des candidats réfugiés. Donc, aujourd'hui, par exemple, à Molenbeek, eh bien, on a ouvert un bâtiment qui peut accueillir une trentaine de personnes, de candidats réfugiés. Je pense que la plupart des communes font également cet effort. Alors, par rapport à la question de la régularisation, rappelons quand même que 95% des candidats réfugiés syriens sont reconnus en Belgique. Donc il y a quand même aussi un effort, et par rapport à certains, voilà, moi je dis que ce gouvernement a un discours humain, il a aussi un discours en tout cas il prend des mesures qui sont humaines,
s'il vous plaît.
Et quand je parle de ce gouvernement, ben, je vous rappelle hein, les propos qui ont été tenus par le chef du gouvernement, parce qu'il y a un chef de gouvernement qui est Charles Michel, et qu'il ne faut pas s'en tenir à des propos qui sont tenus par certains ministres. C'est vrai que Franken a tenu des propos dans lesquels je ne me retrouve pas. Mais ce qui est essentiel, c'est de voir si ces propos ont une incidence sur les politiques qui sont menées par le gouvernement. Ce n'est pas le cas, ça fait partie parfois d'une certaine com. Et que, comme le ministre de l'Intérieur dernièrement qui parle de badge, évidemment que les candidats réfugiés ne doivent pas avoir de badge. Ils ont des documents, ils sont en possession de documents. Et on peut imaginer que ces documents, que sur ces documents, ils puissent... qu'ils leur sont délivrés au départ, et bien que sur ces documents il puisse y avoir leur photo et un lieu de résidence. Ça n'a rien de choquant, mais évidemment on ne peut pas imaginer que des documents peuvent être réclamés par la police, mais ils ne peuvent pas être réclamés par quiconque le souhaite. Et il y a du respect évidemment. Il y a le respect de la vie privée qui s'exerce tant à l'égard des candidats réfugiés qu'à l'égard de tout autre citoyen. Et d'ailleurs, les candidats réfugiés ont le même traitement que les citoyens. Hein, c'est la législation qui fait qu'ils ont le même traitement que les autres citoyens et que ça n'est pas aujourd'hui remis en question.
Merci. Voilà, maintenant que le premier tour de table a eu lieu, je donne la parole à Emir Kir pour le deuxième tour de parole de 2, 3, 4 minutes maximum pour les éventuelles interpellations. Et des interpellations, il y en a eu. Donc, M. Kir, à vous la parole.
Madame Skepmans, on est collègues, on s'apprécie assez bien, mais il faut être un peu sérieux quand même, hein. Parce qu'il y a un moment donné où il faut avoir un peu de décence par rapport à ce qui est écrit dans la déclaration de politique générale. Monsieur Franken présente les étrangers à chaque fois de manière suspicieuse, quelqu'un qui abuse des droits, quelqu'un qui profite du système. Tout son discours repose là-dessus. Opposer des couches de la société, opposer les étrangers avec les Belges, les Belges et les étrangers avec les réfugiés, c'est tout le temps comme ça.
Merci.
Je voudrais quand même intervenir sur ce que la représentante du gouvernement fédéral a dit. Je pense que c'est important. Lorsque vous dites que Charles Michel avait déclaré qu'il refuserait tout propos xénophobe, raciste de la part des membres de son gouvernement, on a vu que lorsque c'était le cas, il était incapable de condamner ces propos avec les conséquences qui auraient dû en découler. Et puis également... vous parlez qu'effectivement les accords de Schengen ont été respectés par le gouvernement, c'est vrai, et j'en suis très heureuse, mais il faut aussi une forme de respect dans les discours et dans la forme, et pas uniquement dans le fond. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre.
Merci. Toujours dans la continuité de ce deuxième tour de parole, Benoît Aline, à vous la parole.
Je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu à Elodie. Pourquoi est-ce que la plateforme n'est pas considéré comme un interlocuteur valable par le gouvernement, parce que vous êtes le thermomètre et le révélateur de leur incompétence. Le thermomètre, parce que vous montrez la fièvre, ils préfèrent casser le thermomètre, comme ça on ne voit plus la fièvre, et vous êtes aussi le révélateur de leur incompétence, puisque vous avez pallié à la carence du gouvernement fédéral. C'est la raison pour laquelle ils ont tenté par tous les moyens, et à chaque fois que Franken pouvait en parler en commission à la Chambre, il le faisait, de parler de vous en termes d'extrémistes de gauche ou de déstabilisateurs de l'État. J'ai aussi entendu ça. Voilà. Et enfin, je réagirai à ce que Marco... À deux choses que Émir et Marco ont dit. Émir, tu as dit on connaît les sans-papiers, il faudra s'occuper de ça aussi. Je suis heureux de te voir changer d'avis, parce qu'il y a 2 ans... sur ordre du bourgmestre, 119 personnes, dont 38 enfants, étaient expulsées de l'église de Jésus. Et je suis content que le PS soit dans l'opposition, depuis. Et enfin, Marco, tu as cité la guerre, c'est vrai, les guerres partout, que l'Occident mène un peu partout au Moyen-Orient. À aucun moment, tu n'as cité le prénom de Bachar. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que Eilan, le petit garçon qui malheureusement est mort sur les plages de Bodrum, son père, ses parents, sa mère, son père, ils ont quitté... Oui, ils ont quitté Daesh, ils ont fui Daesh, mais ils ont aussi fui Bachar. Et donc, il faudra tenir compte de ça, et on ne réglera pas la situation si on ne règle pas non plus le sort de Bachar al-Assad.
Merci. Marco.
Vous pouvez prendre toutes les guerres dans l'histoire, il y avait toujours un bon motif pour faire la guerre. Hein. On n'a jamais dit, bon, on va faire la guerre parce qu'il y a du pétrole, parce que nos enjeux stratégiques sont ceux-là, etc. Non, c'était toujours, il y a un méchant dictateur, il y a une crise humanitaire, etc. Mais après quelques années, on se rend compte, primo, qu'il y avait des objectifs cachés derrière ces guerres, et je trouve ça assez triste d'ailleurs de se mettre à la remorque des États-Unis pour toutes ces interventions. Et deuxièmement, qu'on voit que chaque fois qu'on intervient, mais le chaos augmente, il empire, la situation empire, on ne règle rien, on empire les choses. Et ça, c'est quand même, on ne peut pas le nier. Prenez, même Tony Blair, aujourd'hui, reconnaît que les interventions en Libye étaient une erreur. Tony Blair, qui n'est pas le type le plus à gauche qui est dans l'international socialiste. Ça, c'est une chose. Alors... Madame Skepmans nous dit que tout va bien. Charles Michel a fait une déclaration rassurante. Voilà, il faut respecter les réfugiés. Pas de racisme, s'il vous plaît. Et il dit, heureusement qu'il y a un chef dans ce gouvernement. C'est vrai qu'il y a un chef dans ce gouvernement, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est Charles Michel le chef de ce gouvernement. J'ai plutôt l'impression qu'il est bourgmestre à Anvers et que c'est celui qui attise la haine particulièrement dans ce pays. Voilà, donc je pense que je vais en rester là.
Parfait.
Moi, je ne suis évidemment pas d'accord avec certains propos qui ont été tenus. Je ne suis pas d'accord. Il y a le dernier incident se rapporte à ce badge. Je disais que un candidat réfugié, il reçoit un document d'identité. Donc, sur ce document d'identité, il peut y avoir un lieu de résidence, il peut y avoir une photo, et ce document d'identité qu'il reçoit en arrivant doit suffire, et que évidemment, ce propos qui a été tenu par le ministre de l'Intérieur est tout à fait je dirais un petit peu surréaliste, et d'ailleurs je pense qu'il a fait rapidement marche arrière sur celui-ci.
Voilà, merci. Je remercie tout le monde ici d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je remercie les politiciens d'avoir accepté notre invitation. Je remercie André Aréa, Olivier Francard d'avoir introduit la question. Je remercie les agents de sécurité qui sont là pour veiller à ce que le débat puisse avoir lieu. Et je remercie très particulièrement mon très cher comité du CERF du livre examen 2015-2016 qui, sans lui, la soirée n'aurait pas été possible. Merci et bonne soirée.
Vous venez d'écouter la conférence débat autour de la situation des réfugiés du parc Maximilien, organisée par le Librex le jeudi 29 octobre 2015 à l'ULB.